Radio Campus Lille, il est 16h.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur 106,6 FM Radio Campus Lille dans l'émission Ensemble, tous ensemble. Nous sommes le mardi 1er juillet 2025 et vous nous écoutez soit en direct sur Radio Campus Lille, soit en podcast depuis les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcast et Deezer. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission. Nous espérons que vous avez apprécié la dernière émission sur la présentation des différents services d'aide à domicile pour favoriser le maintien de l'autonomie à domicile. Aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre sur le sujet du maintien de l'autonomie, mais cette fois-ci sous le prisme de la mobilité. Peut-être certains d'entre vous se demandent quel est le rapport entre les deux. Pourtant, la mobilité est un des facteurs d'autonomie, d'indépendance, voire de liberté. Pouvoir faire ses courses, visiter ses proches, se rendre chez le coiffeur, chez le médecin, ou tout simplement pour sortir, prendre l'air, voire en vacances.
Souhaitons dans cette émission revenir sur plusieurs débats en cours concernant la mobilité des seniors à travers l'utilisation ou la non-utilisation des différents types de transports possibles. La voiture et le permis de conduire. Les vieux, ça devrait plus conduire. Ils sont dangereux au volant. Autant de phrases qui reviennent régulièrement et stigmatisent les personnes âgées qui conduisent, comme le rappelle l'association des petits frères des pauvres. Deux projets de loi prévoient de limiter la conduite des personnes âgées. En France, le député Modem Bruno Millième a déposé en juillet 2023 une proposition de loi à l'Assemblée nationale dans le but d'imposer une visite médicale de contrôle pour les conducteurs de plus de 75 ans. Au niveau européen aussi, on se penche sur la question. La Commission européenne réfléchit à instaurer un permis réservé aux conducteurs seniors âgés de plus de 70 ans. Le permis serait renouvelé tous les 5 ans, sous réserve de la réussite d'un examen médical et ou en cours de remise de niveau du code de la route. Pour l'instant, la France n'a pas donné son avis. Elle est l'un des seuls pays d'Europe, avec la Pologne et l'Allemagne, à ne pas avoir mis en place des tests de capacité pour les conducteurs seniors. Une mesure qui ferait sens, les plus de 75 ans étant responsables de 82% des cas d'accidents mortels d'après la sécurité routière. En effet, en Espagne, au Portugal, en Belgique ou encore en Suisse, il faut faire revalider son permis de conduire passé un certain âge. Peut-être un jour une réforme du permis de conduire à encadrer pour éviter la stigmatisation à l'âge des conducteurs. Et si nous n'avons plus de voiture, Coralie ?
L'option est à envisager, bien sûr. On a quelques chiffres et données à vous partager. Il y a la Société française de gériatrie et de gérontologie et la Fondation Médéric Alzheimer qui ont mené plusieurs enquêtes concernant la conduite automobile et les troubles cognitifs. Les résultats montrent que l'arrêt de la conduite a un retentissement dans la vie de 37% des malades. Arrêt des activités culturelles, sociales, familiales, moins de sorties, les restaurants, voir les amis, la famille. Donc cela peut entraîner une certaine désocialisation, voire un isolement social délétère. C'est les petits frères qui parlaient de mort sociale. Donc des solutions, il en existe pour compenser l'arrêt de la conduite, mais elles sont sous-exploitées et peu connues parfois. Le covoiturage avec un proche, la marche à pied, ça on connaît tous. Le transport collectif, davantage utilisé peut-être en milieu urbain qu'en milieu rural. Ou encore les services d'aide tels que les accompagnateurs ou les services de livraison, de course à domicile. Il y a aussi d'autres initiatives qui voient le jour. On vous en cite deux à l'échelle du Nord. Le bailleur social Clésence à Cambrai et le centre social Saint-Roch ont mis en place un service de mobilité. Une habitante témoigne, désormais, les habitants du quartier peuvent utiliser des vélos électriques et ou la voiture électrique à un prix défiant toute concurrence. Il faut compter 4 euros la demi-journée pour les vélos et 5 euros la demi-journée pour plus 10 centimes du kilomètre pour la voiture. Donc cela facilite vraiment la vie des gens qui n'ont plus de moyens de transport. C'est un premier pas pour combattre l'isolement et faire sortir les gens. Et la deuxième initiative, c'est celle au niveau du Pays de Mormal, avec le service Déplacez-vous en Pays de Mormal, qui propose plusieurs solutions de mobilité, dont le covoiturage solidaire. Le principe, vous ne payez que l'essence et passez un moment privilégié avec un bénévole formé pour ce type de service. Le Pays de Mormal, pour votre information, c'est aux alentours de Valenciennes, un petit peu en dessous.
Merci Coralie, ça nous fait déjà de plusieurs exemples que vous ne connaissiez peut-être pas et donc matière à débattre. Et pour débattre, nous allons accueillir nos invités. Pour parler de ce sujet central de la mobilité, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Radio Campus Lille pour ce mois de juillet 2025, Antoine Dutoit, fondateur d'Happymove, un taxi vélo. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bienvenue. Nous avons également Yannick Vandewal, responsable Interrégion Nord et Île-de-France pour l'association Ciel Bleu. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Et nous avons aussi Hélène Lecoq, animatrice intersecteur du Centre social Basse-Mazur à Roubaix. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Qui est venue accompagnée d'une habitante du quartier de Basse-Mazur, Sadia. Bienvenue Sadia.
Merci à vous.
Pour commencer, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de nous partager le lien entre votre activité, votre structure et la mobilité, et vous remercier de vous être déplacé pour parler mobilité jusqu'à nous. Je vais commencer par vous, mesdames, si je peux me permettre. Donc Hélène, est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui au sein du centre social ce que vous pouvez faire comme activité en lien avec la mobilité et ce que vous mettez derrière ce terme ?
Au sein du centre social Basse-Mazur, qui est un centre social à Roubaix, dans le quartier du Cul-de-Four, donc un quartier quand même assez défavorisé et dans lequel on parle beaucoup d'enclavement social. On met en place pas mal d'activités en lien avec la mobilité, et notamment pour les personnes, ce qu'on dit seniors, donc âgées de 60 ans et plus. Donc dans ces projets de mobilité, il y en a plusieurs. Il y a des mobilités en lien avec des activités socioculturelles, donc il y a des sorties au musée, notamment la piscine de Roubaix dernièrement. Ça nous arrive d'aller sur l'île. Donc on a plusieurs types d'activités socioculturelles, et pour ce faire on se déplace en camionnette, parce qu'on a à disposition au sein de notre centre des petites camionnettes. Sinon à côté de ça, on développe aussi des petites activités sportives. Là il n'y a pas longtemps, on a réalisé une activité de marche nordique avec le centre social de Lomelet, qui est un centre social proche de celui de Basse-Mazur. Donc on essaye de mettre en place des initiatives intercentres, donc entre les centres des quartiers roubaisiens, ce qui permet de favoriser aussi certaines formes de mobilité entre les personnes, mais aussi de rompre avec un certain isolement qu'on constate malheureusement chez les seniors. Et à côté de ça, donc là c'est le projet qu'on aimerait évoquer là au cours de cette émission, c'est un projet qu'on a mis en place avec le groupe projet. Donc c'est un projet de partir en Italie, et je vais laisser la parole à Sadia qui pourra mieux le présenter que moi.
Merci.
Sadia, à vous.
Alors, qu'est-ce que je peux dire pour le projet ? On est plusieurs personnes. Donc on fait des activités, on fait à manger, on invite les gens à venir manger. Et comme ça nous fait rentrer une partie de l'argent. Le centre social y contribue aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire ? T'as tout dit. Qu'est-ce que je pourrais dire ?
Et est-ce que vous savez quand est-ce que vous souhaiteriez partir en Italie ?
Ce serait pour le mois de septembre. Donc, on va faire des festivités au centre.
Plein de festivités pour gagner plein d'argent.
Au moins une fois par mois. Et faire des flyers, inviter les gens de quartier et même autres à venir au centre social.
Ok. Ce voyage, Sadia, c'est entre guillemets que pour les seniors ? Vous êtes un groupe de seniors ?
Oui, c'est que pour les seniors.
Ok.
Il y a peut-être une qui va s'intégrer avec nous, mais voilà, en général, c'est pour les seniors.
Et Si on peut aller un tout petit peu plus loin, oui. Pourquoi l'Italie ? D'où vient ce projet de voyage ? Est-ce que vous savez l'expliquer, Sadia ?
Pour être ensemble, pour voir l'Italie. J'ai jamais vu l'Italie.
D'accord.
Pour être ensemble, pour se faire des amis aussi. C'est agréable d'être avec des amis. Je suis déjà sortie en vacances avec mon mari et mes enfants. Avec des amis, c'est pas pareil.
Mm-hmm.
On va cohabiter ensemble, on va se connaître mieux.
Est-ce que vous savez si dans le groupe des personnes qui vont partir,
oui.
Il y en a qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de partir aussi loin ?
Je ne sais pas trop.
Ok.
Je ne sais pas trop, mais...
Hélène, à côté de vous, Sadia, elle fait comme ça. Alors, vous ne nous voyez pas, évidemment, mais elle fait oui de la tête. C'est possible qu'au niveau de la mobilité, Hélène, il y ait des gens qui ouais. S'autorise ce type de voyage qui n'aurait jamais pensé.
Bah alors je pense que pour beaucoup de personnes il y en a qui viennent de pays du Maghreb, donc on peut dire qu'elles ont déjà voyagé plus loin, mais qui n'ont en effet pas l'habitude de se permettre ce type de voyage. Oui, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau de partir dans un pays européen.
Okay.
Ouais. Et accompagné de plusieurs amis différentes nationalités aussi.
Mmh. Okay.
C'est agréable.
Bon, on y reviendra. Messieurs, si on peut vous laisser la parole. Antoine, Yannick.
Oui, avec plaisir, merci. Donc moi c'est Antoine, je suis fondateur de l'entreprise de taxi vélo Happy Move basée à Lille. Donc ça fait 18 ans, j'ai fondé cette entreprise en 2006 avec comme idée de départ de m'aider moi-même. En fait, c'était parti d'une contrainte personnelle puisque j'allais faire mes courses à pied habitant dans Lille. Et quand on fait des courses pour un peu plus que deux jours, on a un peu les bras chargés. Et une question toute simple m'est venue en me disant comment font les familles, les mamans, les personnes, enfin ou les personnes qui font les courses, qui ont un peu plus que deux jours de courses, de commission et d'achat à faire, lorsqu'elles habitent pas très loin des commerces et que finalement ça vaut vraiment pas la peine de prendre sa voiture. Et puis en travaillant en transport et logistique, je suis un petit peu au fil de mes recherches sur internet, je suis tombé un peu par hasard sur ce système de tuk-tuk, donc les vélos taxis qu'on connaît dans les pays plutôt exotiques, plutôt au pays d'Asie, où on va prendre ce genre de moyens de locomotion pour visiter la ville ou de façon occasionnelle. Et je suis tombé sur un concept qui a été revisité, donc le tuk-tuk asiatique a été revisité par des Allemands, qui en ont fait un tricycle à assistance électrique, avec une vraie cabine, avec une vraie position de conduite confortable pour le chauffeur, avec des freins puissants, enfin voilà, quelque chose de sérieux. Et je me suis dit, tiens, ça me parle. Et en plus de ça, dans cette entreprise, il n'y a pas de carburant. Sachant qu'à 18 ans, on subissait déjà des hausses, des baisses de carburant sans arrêt. Et donc, j'ai décidé à 25 ans de créer cette entreprise, en trouvant d'abord et en allant d'abord vers un public un peu de tourisme. Mais finalement, Lille n'est pas la première place touristique du nord de France, on va dire. Et naturellement, on a trouvé un public de seniors. Un public de seniors qui, donc ça part d'une, deux, trois personnes, 60 ans et plus, qui ont utilisé le taxi-vélo en se disant « Tiens, bah, ça peut me permettre d'aller jusqu'à la pharmacie. Tiens, ça peut me permettre d'aller jusque chez mon médecin. On peut réserver. On vient me chercher en porte-à-porte. » Et aujourd'hui, on travaille pour plein de cas d'usage comme ça. Donc, seniors, non-voyants, femmes enceintes, personnes en difficulté de mobilité, une personne qui a un handicap temporaire, qui s'est cassé la cheville en vacances. Voilà, donc on aide dans l'île, sur les derniers kilomètres, les personnes à se déplacer à vélo, mais sans devoir pédaler.
Merci pour ces précisions. On reviendra effectivement sur l'accompagnement porte à porte et les derniers kilomètres qui sont parfois précieux. On va donner la parole à Yannick qui lui donc pour l'association Ciel Bleu. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que votre association fait pour les seniors et leur mobilité?
Oui, donc voilà, moi je fais partie de l'association Ciel Bleu SIEL, Sport, Initiative et Loisirs Bleu. Qui existe depuis presque 30 ans, 28 ans maintenant, et qui rassemble sur le territoire national 850 salariés, tous diplômés en activité physique adaptée. Nous, ce qu'on fait au niveau de la mobilité des personnes âgées, c'est de valoriser la personne âgée en tant que telle, en utilisant son corps, ses capacités motrices et locomotrices pour se déplacer, maintenir son autonomie au domicile ou en institution ou en établissement, et de garder cette autonomie le plus longtemps possible pour un bien-être physique et un bien-être psychologique. Donc tous nos enseignants APA sont formés initialement via leur cursus STAPS universitaire.
Alors STAPS, les acronymes.
Et APA aussi.
Voilà, ah oui, donc STAPS, c'est l'Université des sciences et techniques d'activité physique et sportive, plus connue pour la filière de l'éducation nationale des profs de PS. D'accord. Mais il y a d'autres options et mentions, dont l'APA, activité physique adaptée. Et du coup, on vient proposer des programmes collectifs ou individuels au public âgé. Alors, on a d'autres publics aujourd'hui, mais la thématique aujourd'hui est la mobilité de nos aînés, de nos seniors, puisqu'en fait, on a l'objectif d'apporter de l'activité physique au public fragilisé. Fragilisé par la maladie, fragilisé par le handicap, par les conditions salariales aussi, puisqu'on intervient en entreprise, mais aussi fragilisé par le vieillissement. Et donc, qui dit vieillissement physique, psychologique, mais aussi social, avec l'isolement. Donc, du coup, c'est de recréer du lien aussi avec nos activités, faire sortir les personnes âgées de chez elles pour faire de l'activité physique avec un professionnel APA, mais aussi des activités, des programmes individualisés, personnalisés, qui répondent aux besoins de la personne et aux attentes. C'est-à-dire que ces personnes ne veulent pas aller en activité collective pour diverses raisons. Et donc, du coup, on leur propose des programmes individuels à domicile.
Merci pour ces précisions. Avant de rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet, Pauline disait tout à l'heure, c'est quoi finalement la définition de la mobilité ? Alors, c'est toujours compliqué de la définir, et vous l'avez même déjà fait avec vos mots, à travers vos missions. Moi, si j'ai une question peut-être à vous poser individuellement, au centre social, il n'y a pas cette camionnette. On entend, Hélène nous avait dit, il y en a même plusieurs. S'il n'y a pas ce taxi-vélo, Antoine, et s'il n'y a pas de déplacement au domicile pour faire cette activité-là, chez Ciel Bleu, avec vous, Yannick, est-ce que vous, grâce à ces solutions-là, est-ce que vous pensez que vous avez aider des gens? Est-ce que vous avez des premiers témoignages, des premiers retours auxquels vous pensez, où vous vous dites, eh ben oui, en fait, là, on a été au domicile d'une personne, l'a cherchée, elle a participé. Et ça dit évidemment que vous pouvez compléter en vous disant, bah, nous, on a fait la rencontre d'un tel parce qu'on a été le chercher et que grâce à cette mobilité-là, on a touché des personnes. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette première question? Ça vous fait penser à des témoignages, à des sorties d'isolement. Hélène?
Oui, je pense bien, mais j'en suis convaincue. Mais je pense que c'est plus aussi sur un aspect des personnes qui se restreignent elles-mêmes de faire des activités, non pas parce qu'elles n'ont pas accès à des moyens de mobilité. Enfin, je pense que, par exemple, les transports en commun sont quand même présents, c'est quand même relativement bien desservi. Mais je pense que les personnes s'empêchent aussi d'aller à des activités où c'est plus un accès à la culture qui va être différent. Et qui va être pas forcément évident. Et en effet, j'ai l'impression que de passer par un centre social, en tout cas chez nous c'est comme ça, ça peut faciliter en fait ces formes de mobilité. Et encore une fois, c'est l'isolement qui pose problème et qui empêche les personnes de s'autoriser à faire ce genre de sortie ou d'activité.
Ouais, le pas. Et donc, Sadia, est-ce que, pour compléter ce que vient de dire Hélène, qu'est-ce qui empêche, selon vous, les seniors que vous pouvez croiser dans la rue, en tant que voisin, etc. Qu'est-ce qui les empêche de passer le pas de la porte, de se dire, bah, moi aussi, j'y ai le droit, à votre avis?
Je crois qu'ils sont... ils connaissent pas trop les centres sociaux, déjà. Parce qu'on peut rencontrer des bénévoles. Comme moi, j'ai une voiture, je suis prête à aider quelqu'un qui fait pas ses courses. Donc, je vais à Auchan, je peux prendre quelqu'un avec moi et le redéposer chez lui. Je crois qu'il faut qu'on en parle justement autour d'une table au centre social, leur proposer aussi notre aide comme elles-mêmes, elles peuvent nous proposer leur aide sur autre chose, quoi.
C'est donc l'échange et le lien.
Les échanges,
voilà,
oui,
effectivement,
voilà.
On disait en introduction, parfois il y a des solutions qui existent finalement, mais qui sont méconnues.
Comme on n'en parle pas.
Et voilà, bah, c'est aussi pour ça que l'émission existe, pour parler des choses un peu moins connues.
Il y en a qui viennent au centre social pour faire leurs papiers, parce qu'ils ne savent pas trop. Bon, il y a des personnes qui ont besoin d'autre chose.
Est-ce que vous en avez déjà parlé à vos voisins? Je vais à tel endroit, au centre social, Basse-Lazure.
À certaines personnes, il y en a qui habitent un petit peu loin, donc ils disent on va venir, et puis bon, ils mettent du temps. Oui, j'en parle.
Ok.
Ça va venir.
Vous êtes un petit peu une ambassadrice, si on peut dire ça comme ça, Hélène. Il y en a peut-être quelques habitants comme ça où la parole est portée et ça permet de faire venir de nouvelles personnes, en quelque sorte.
C'est-à-dire que moi, ça fait pas très très longtemps que je vais à Basse-Mazure parce que c'est mon quartier, mais je connaissais pas trop en fait. Et donc je découvre aussi, et en découvrant, bah, ça m'apporte quelque chose.
Parce et comment que... vous avez découvert du coup?
Ben, je connais, mais j'ai pas mis le pied dedans en fait.
Vous avez pas osé franchir la
voilà,
porte. Qu'est-ce qui vous avait qu'est-ce qui vous a fait rentrer?
Mais une fois que j'y suis rentrée, ben, les personnes, ils étaient très agréables. Ça dépend qui est-ce qu'on rencontre là-bas, en fait. Mmh. Quand on voit des personnes qui sont agréables, que, voilà. Après, on a des échanges pour tout.
C'est une mise en confiance.
Voilà.
Au point que vous allez bientôt partir en Italie tous ensemble.
Oui, voilà. Il
n'y
a pas que ça. On fait du sport. voilà. On fait des vide dressing.
OK.
C'est agréable.
Messieurs, est-ce que sur cette question de la mobilité et cet apport, est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être quelques témoignages, des retours d'expérience de votre solution? Antoine?
Oui, on en a plein. comme ça fait 18 ans qu'on existe, on a aidé et accompagné énormément de seniors dans leur mobilité. Nous, les témoignages de seniors qu'on avait, c'était qu'ils ne voulaient pas prendre les transports en commun, pourtant qui desservent bien une grande ville comme Lille, parce que soit il y a des barrières de compréhension, des barrières de sentiment d'insécurité. Là, je parle, c'est souvent le métro qui était évoqué par les seniors en disant « Non, moi, je ne veux pas aller dans le métro ». C'est pour eux, pour des certains seniors, synonyme d'insécurité parce que c'est sous terre. et le fait de prendre le bus, y a deux problèmes avec le bus, enfin pour les seniors, hein, je parle. C'est parfois rejoindre l'arrêt de bus, c'est déjà trop loin. Sur un déplacement de 500 mètres que doit faire un senior, qui est vraiment petit, qu'on voudrait tous faire à pied, un senior, sa difficulté, c'est les 480 derniers mètres. Les 20 premiers mètres, ça va, mais après, ça devient compliqué. Et en plus de ça, on avait des témoignages disant, et ça s'est répété, lorsque je monte à bord du bus, j'ai pas le temps de trouver un siège que le chauffeur redémarre, et j'ai tendance à me déséquilibrer, à tomber sur les gens, à gêner, et donc j'ai vraiment pas envie de cette situation où je gêne et où je tombe sur des gens. Et donc le transport qu'on propose, nous, qui est individualisé porte à porte, un chauffeur vient chercher une ou deux personnes à domicile pour l'emmener devant la porte de son coiffeur, pour lui permettre donc de sortir de son isolement un petit peu quotidien, parce qu'il y a énormément de choses par rapport à l'isolement qui sont faites pour aider au maintien à domicile, donc livraison de repas, ménage, soins à domicile, mais du coup, ça maintient les gens à domicile. Et il n'y a pas beaucoup de solutions pour les aider à bouger, et donc à aller dans ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le lien social, le contact, la santé mentale, etc. Et donc on a transporté un monsieur à partir de ses 97 ans, tous les jours, pour aller boire un café avec ses amis. Donc il se retrouvait avec une dizaine d'amis seniors. Tous les jours, on l'a transporté jusqu'à ses 107 ans. Et lorsqu'il est décédé, sa famille nous a envoyé un faire-part de décès et nous a fait une lettre de remerciement, nous expliquant qu'en fait, leur grand-père ne sortait que grâce à nous et qu'il parlait régulièrement de nous et qu'on était sa bouffée d'oxygène pour aller voir ses amis. Voilà, ça c'est un des exemples et on en a plein d'autres comme ça.
Merci. Yannick ?
Ouais, bah des témoignages. Heureusement, on a ce genre de retour aussi très positif et qui nous aide à porter le projet encore plus loin. Et aujourd'hui, par exemple, sur le public senior, on est en train de développer un nouvel accompagnement qu'on a nommé Carmen et qui est cofinancé aussi avec Danone Écosystème pour accompagner les seniors autour de l'activité physique, alimentation et mémoire. Donc c'est un nouvel accompagnement qu'on propose aussi et qui fait suite justement à des besoins, des attentes manifestes de la part des seniors qui sont malgré tout de plus en plus autonomes quand même, puisqu'on vieillit de plus en plus long en France et notamment au niveau de l'Europe. Et du coup, on a développé ce genre de programme plus complet qui rassemble des activités collectives et des séjours aussi un petit peu sur l'idée du séjour en Italie. On va pas aussi loin. Nous, on est sur la côte, là, à Landretin-le-Nord, au Chesnay, qui est un de nos partenaires, et où on les amène, en fait, sur une semaine de prise de conscience sur leur potentiel, leur capacité, sur l'alimentation aussi. C'est pas forcément faire des repas diététiques et aussi dans le but de maigrir, mais c'est juste se faire plaisir aussi, mais de la bonne manière. Et autour de ça, tout ce qui est activité culturelle, loisirs aussi, ou socio-esthétisme, donc de bien-être total auprès des personnes âgées. Alors moi, j'ai pas pu venir avec un ou une de nos bénéficiaires, mais on a lancé l'année dernière une campagne sur les victoires de nos bénéficiaires. On a profité des Jeux Olympiques de 2024 pour lancer, nous, notre campagne des petits pas. Les petits pas font les grandes victoires. Et on a nos médaillés aussi. Par exemple, Paulette, qui est médaillée du 30 mètres couloir, qui vit en institution et qui a lâché son déambulateur grâce à l'activité physique régulière en EHPAD. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, on a aussi développé de nouveaux programmes d'études d'impact sur l'activité physique auprès des seniors, comme le programme Ocebo qu'on mène avec l'INSERM et qui s'est fait sur 3 ans en accompagnement, et notamment sur l'île, en accompagnant des personnes âgées de plus de 75 ans sur un programme individuel et collectif et qui a apporté le résultat d'un risque de chute de 20% en moins pour les personnes âgées, et donc du coup une économie aussi pour la société et pour l'État aussi au niveau de la prise en charge des personnes qui chutent. Donc j'ai pas ces témoignages-là, enfin ces personnes avec moi aujourd'hui, mais dans le cadre des petits pas, on a un témoignage d'une bénéficiaire de cours collectif Ciel Bleu, qui s'exprime sur notre page. Je m'appelle Anne, c'est pas celui-là, pardon.
Il s'appelle pas Anne, finalement.
Non, c'est pas Anne. et du coup, voilà, ces témoignages, en fait, sont très variés, en fait. Ça va des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques jusqu'aux personnes qui sont aussi concernées par des conditions salariales compliquées. Et on intervient aussi sur des dispositifs d'échauffement, de maintien de l'autonomie sur poste de travail aussi.
Ok, oui, parce que notre émission, elle est sur les seniors, voilà. On sait qu'il y a la perte d'autonomie avant d'avoir 60 ans, parfois.
C'est ça. Ouais. C'est ça, on a commencé, nous, il y a 28 ans, en disant on va faire des actions de prévention retraite, mais en fait, la retraite se prépare bien, bien avant l'arrivée à l'âge de la retraite, et c'est un entretien du corps permanent. Donc ce témoignage, c'est Lucienne. Je m'appelle Lucienne, j'aurai 85 ans le 15 juillet. Depuis 4 ans, je souffre d'arthrose sévère, ce qui m'empêche de faire les activités que j'aimais, comme la natation ou la marche. Cependant, depuis que mon infirmière m'a présenté Mégane de l'association Ciel Bleu, et qu'elle vient une fois par semaine pour me faire faire des exercices, je remarque que les choses s'améliorent progressivement. Mégane est toujours souriante, joyeuse, bienveillante, et surtout très encourageante. Cela est très important pour moi. Ces séances sont intenses, mais je sens que ça me fait du bien. D'ailleurs, j'ai même recommencé à utiliser mon déambulateur pour me déplacer au lieu du fauteuil roulant, ce que je ne faisais plus de peur de faire une chute. Aujourd'hui, je peux dire que cet accompagnement m'aide beaucoup. J'ai retrouvé une partie de ma mobilité. Je suis très fier de pouvoir ressortir dehors, même si ce n'est pas tous les jours. Cela représente une grande victoire pour moi.
Merci, c'est top. Effectivement, on se rend compte, tu parlais de prise de conscience, j'avais même envie de parler de prise de confiance. On se rend compte qu'effectivement, la mobilité, elle est au cœur d'un sujet, mais qu'elle impacte beaucoup la personne dans son lien social, dans son quotidien. Là, on parlait aussi d'alimentation. Le café est pas forcément à en boire trop souvent, mais on voit le lien entre effectivement ce petit café entre copains qui crée ce lien. Donc on se rend compte que le manque de mobilité impacte beaucoup dans le quotidien, mais apporte aussi beaucoup. Sadia, si je peux vous redonner la parole, en franchissant la porte du coup de ce centre social, est-ce qu'on peut faire un petit peu un avant-après votre quotidien, parce que je vous sens effectivement de plus en plus impliquée au sein du centre social, pardon. Qu'est-ce qui a été, de se dire, qu'est-ce qui a déclenché et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui d'avoir passé cette porte?
Moi déjà, j'ai des maladies chroniques, comme une polyarthrite, polyarthrite, l'ostéoporose. Je vais au centre là-bas, on fait du yoga, on fait de l'activité physique. Et puis ça me permet de sortir de chez moi, parce que chez moi, bon, j'ai des fortes douleurs, malgré les médicaments. Là, je suis avec la cortisone. Et en fait, quand on est en présence d'autres personnes, on dirait qu'on oublie les douleurs. Mmh. On ne pense plus à sa douleur, on pense qu'à faire bien, quoi. On est bien, comme là, j'ai aucune douleur.
C'est que vous passez un bon moment.
Je pense à un bon moment. Donc, ça veut dire que autre chose.
Vous avez vu l'évolution entre avant le centre social et après, enfin, il y a...
Oui, je vois, parce que moi, j'ai eu beaucoup de deuil.
D'accord. Donc ça vous fait du bien de sortir, de voir du monde, de sortir un petit peu. Puis
j'oublie.
Ouais, alors, on n'oublie pas forcément, mais en tout cas, on pense à autre chose.
Ouais.
Vous voyez des sourires.
J'ai beaucoup été aidante, en fait.
D'accord. Ouais.
Donc là, maintenant, ça va mieux.
Ça aussi, c'est un autre sujet.
Voilà.
Ouais. Donc vous pensez un peu plus à vous.
Ouais, exactement.
12 voyages en Italie. On va presque partir avec vous. Hein.
Ouais,
Peut-être pas tout de suite, parce qu'on n'est qu'en juillet et que le voyage n'est qu'en septembre, mais...
Si on part en vélo, on peut peut-être commencer maintenant.
Il faut partir maintenant.
Antoine,
il faut partir maintenant.
On va faire la pause musicale de l'émission avec la chanson d'Yves Montand, À bicyclette. On s'est dit que c'était dans le thème. Je ne veux pas vous expliquer plus que ça. On vous laisse écouter.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
On est de retour sur 106.6 Radio Campus Lille avec l'émission Ensemble tous ensemble, réécoutable à tout moment en podcast sur les plateformes habituelles Spotify, Apple Podcast et Deezer. Nous reprenons le cours de notre émission que nous avons dédié aujourd'hui à la mobilité des seniors avec nos invités Happy Move, Ciel Bleu et le centre social Basse Masure de Roubaix. Aujourd'hui, dans vos zones d'intervention, vous nous parlez des camionnettes. Est-ce qu'elles vont chercher des personnes pour les amener au centre social? Et jusqu'où allez-vous avec cette camionnette, Hélène, peut-être?
Non, on ne va pas chercher de personnes. Enfin, c'est jamais arrivé, à ce que je sache. Mais les camionnettes, on les utilise quand même pour aller assez loin. Donc moi, je suis arrivée récemment dans le centre social, mais je sais que l'année dernière, elles sont parties, je dis elles parce que c'est majoritairement des dames, c'était côté dames.
C'est des camionnettes.
Oui, non, mais c'est des dames qui sont parties. C'était l'ancien groupe projet, parce qu'en fait, on fait des groupes projets régulièrement. Et là, c'était un ancien groupe projet. Elles sont allées jusque Strasbourg avec les camionnettes. Donc, c'est vrai qu'on est quand même très, très dépendante de ces camionnettes quand on veut bouger. Après, par exemple, pour les sorties d'été, ça nous arrive de louer des bus. Mais dans ces conditions-là, c'est plus pour les familles et les seniors mélangés. Mais oui, on utilise ces camionnettes... assez régulièrement et on peut aller assez loin. Par contre, on va pas aller en Italie avec, ça c'est sûr. Surtout qu'elles sont un peu sur leur fin de vie.
Eh ben justement, voilà, vous faites la transition directement. Donc on voit qu'il y a pas de zone géographique entre guillemets. Vous allez là où la camionnette vous emmène, où la conductrice veut bien le faire. Si on parle du financement aujourd'hui, alors on a entendu, c'est-à-dire que voilà, vous faisiez des activités pour financer les projets, mais l'achat d'une camionnette, ça reste un investissement. Aujourd'hui, comment vous financez par exemple, et si vous devez la remplacer demain, comment vous allez faire?
Alors, si j'ai bien compris, je crois que ces camionnettes, elles ont été, elles viennent de la CAF. Donc, je crois que c'est la CAF qui nous ont financé ces camionnettes. Mais peut-être que j'ai des bêtises. Oh. Mais...
Alors, CAF, donc caisse d'allocation familiale.
Ah oui, pardon.
Voilà. Non, il n'y a pas de souci.
Et par contre, c'est vrai que je ne sais pas trop en cas de. Si on n'a plus de camionnettes, comment on ferait et comment on les rachèterait? Ça, je ne sais pas trop.
Ça restera
trop,
vous répondre. Un autre projet.
Elles appartiennent au centre social Basse-Masure ou alors vous voulez partager entre centres sociaux?
Alors, elles appartiennent au centre social, mais ça nous arrive d'emprunter à d'autres centres sociaux. Là, on a fait il n'y a pas très longtemps, on est parti au Cap Griné. Donc là, c'était intergénérationnel, encore une fois. On a emprunté des camionnettes à d'autres centres sociaux et ça peut arriver aussi qu'on prête nos camionnettes aux autres centres sociaux. Ouais. Sachant que les directeurs se connaissent quand même assez bien sur le secteur et il y a une bonne entente. Donc voilà.
Ok, cette solidarité. Je vais vous poser la même question à vous, messieurs. Donc aujourd'hui, Antoine Dapimouve, sur quelle commune, donc tu nous parlais de Lille, mais du coup, sur quelle commune tu peux intervenir? On a entendu que c'était souvent les derniers kilomètres, donc je présume que voilà, c'est des interventions peut-être courte distance, mais sur quelle commune et comment est financé ce vélo?
C'est ça. Alors, du coup, en deux temps, effectivement, un taxi-vélo, c'est aussi un vélo, et même s'il a une assistance électrique, il a une vocation et un rôle, une valeur ajoutée, un réel apport sur les petites distances. Ça, on ne fera pas de Lille-Roubaix ou de Lille-Tourcoing. Donc, une fois qu'on est installé à Lille dans des locaux lillois, on dessert un bassin de population important, qui est la ville de Lille, et on dessert toute la ville de Lille. On a ensuite certaines collaborations avec d'autres communes alentours. Je peux citer la Madeleine et la ville de Lomme, pour lesquelles on va en fait, sur des créneaux horaires hebdomadaires, mobiliser un taxi-vélo avec son chauffeur qui vont aller dans la commune en question et transporter les personnes de la commune uniquement sur cette commune. Donc on est toujours sur 1, 2, 3 kilomètres maximum. On a aussi une collaboration à Tourcoing avec une association qui est une CPTS, donc c'est Comité de Professionnels et Territoires de Santé, qui vient en aide aux patients et aux praticiens dans le parcours de soins et qui avait besoin de nous pour justement aider les patients à se rendre dans les différents cabinets des différents praticiens. Et donc, voilà pour nos zones d'intervention. Donc, c'est la courte distance, les derniers kilomètres. Et pour ce qui est du modèle économique, donc on est soit financé par l'association lorsque on a une association comme une CPTS qui nous sollicite, soit par une municipalité comme c'est le cas pour la ville de Lomme ou de la Madeleine, sur des contrats avec un nombre d'heures à effectuer dans la ville en question, soit par notamment avec la ville de Lille par le CCAS, donc Centre Communal d'Action Sociale, qui vient en aide aussi aux seniors à faibles ressources. On a aussi dans nos clients l'UNADEV, donc c'est Union Nationale des Déficients Visuels. Alors je dis certainement une bêtise sur l'acronyme, excusez-moi, mais en tout cas c'est une association qui vient en aide aux déficients visuels et qui nous missionne, qui paye pour ses bénéficiaires pour les aider à aller à des justement à des cours de sport, ou tout simplement aller de la gare jusqu'au siège de l'association qui se trouve dans l'île. Et après, on a bien sûr les personnes qui payent de façon indépendante. Hein,
en tant que particulier, quoi.
Voilà, vous êtes particulier, vous avez besoin d'aller à la boulangerie, à la poste, à la banque. Vous pouvez avoir votre taxi vélo avec votre chauffeur qui vous accompagne pendant une demi-heure. Et là, vous payez de vous-même si vous n'êtes pas bénéficiaire des différents systèmes que j'ai cités avant.
Comment on communique chez Happy Move, du coup, pour quand le CCAS, la ville, vient vous chercher, c'est eux qui distribuent cette parole, ce service, voilà, qui en parlent. Mais comment sont au courant les particuliers? Comment ils en sont arrivés à venir vers vous, du coup?
Alors, les particuliers qui vont prendre le taxi vélo, il y a deux choses. C'est le bouche à oreille qui marche très bien. Parce qu'en fait, si on parle des publics 60 ans et plus, ou des grands seniors, parce que notre cliente la plus âgée aujourd'hui, elle a 100 ans. Ça, c'est vraiment d'être rassuré par un voisin qui dit « Mais si, fais-le, tu verras, c'est pratique, ils sont super sympas, ça vient à domicile, il suffit de téléphoner. » Donc on a gardé une ligne téléphonique, parce qu'on a bien sûr une application de réservation, mais on a gardé une ligne téléphonique justement parce que ben, tout le monde n'a pas accès
au
smartphone et autres. Ouais. Et il y a aussi les aidants. Les aidants qui disent bah, « Tiens, maman, j'ai vu ça, on l'essaye ensemble, on va aller chez ton coiffeur ensemble, et après tu le feras de façon autonome, et une fois que c'est essayé, c'est adopté. » Et du coup, finalement, il y a ce premier canal, et le deuxième canal, c'est la politique de l'offre, c'est-à-dire de mettre des vélo-taxis dans la rue. Ça crée le fait que les gens le voient et se disent « Tiens, je pourrais aller peut-être monter là-dedans pour mes trajets. » Voilà. Pour ma mobilité.
Ok. Une petite dernière question par rapport à... Donc, si le CCAS vous demande de faire tant d'heures la semaine, etc., c'est le CCAS qui finance et les habitants montent dans le taxi, ils n'ont rien à payer. Si jamais ils sont particuliers et décident sur un autre créneau pour leur utilisation personnelle, c'est quoi le coût? Comment ça fonctionne?
Alors effectivement, lorsque on est missionné par le CCAS ou par une autre association ou organisation, ça va être financé et le passager du coup n'aura rien à payer. Par contre, s'il souhaite le prendre à part, donc en ayant réservé, on est pour une personne à 7 euros entre 0 et 1 km avec réservation, donc 7 euros TTC. On a un chauffeur, l'assurance, un véhicule qui vient à domicile. Ça comprend les kilomètres d'approche à vide. Donc pour 7 euros, on est entre 0 et 1 km. Et ensuite, on ajoute 3 euros par kilomètre.
Ok.
Et pour deux personnes à bord, c'est le forfait de départ, c'est 9.
Ok, très bien. Voilà,
9 euros de TTC.
Yannick, par rapport à la zone d'intervention et à cet objet des financements, parfois le nerf de la guerre, pour souvent.
Ah, non, c'est le nerf de la guerre, toujours. zone d'intervention, donc comme je disais tout à l'heure, on a 850 salariés dans l'association. Sur le territoire national, on a dépassé les 1000 salariés au niveau européen. Sur la métropole de Lille, voilà, sur le Nord, on a une équipe d'une vingtaine d'enseignants APA sur le département du Nord, et sur la métropole de Lille, on a presque une dizaine d'intervenants, autant en collectif qu'à domicile ou en entreprise, voilà, qui interviennent en fait chaque semaine auprès de leurs bénéficiaires. Auprès des structures, sur des cours collectifs ou individuels. Financièrement, comment on fonctionne? Donc on est un modèle associatif à but non lucratif, et ce qu'on a souhaité être et ce qu'on souhaite rester, on fonctionne en fait sous forme de contrat, de convention avec les structures qui nous accueillent, donc que ce soit les EHPAD, que ce soit même les personnes à domicile. Que ce soit les collectivités comme les CCAS, les centres sociaux, il y a un contrat qui est passé avec eux et une facturation qui est faite, une facturation mensuelle, et qui permet du coup de rémunérer nos salariés. Il y a tout le fonctionnement, le financement de la flotte de voitures, puisqu'on a une flotte aussi à disposition pour les salariés pour se déplacer, puisqu'on est des nomades de l'activité physique, on apporte l'activité physique à la porte des gens.
Ouais.
Parce que le premier frein à l'activité physique pour tout le monde, c'est de s'y mettre et de s'y tenir et d'y aller. Et nous, on a décidé d'amener l'activité physique à la personne. Et donc, voilà, il y a une flotte de voitures qui est à disposition aussi pour les salariés. Donc ça, il faut le payer aussi. Il y a toutes les équipes aussi d'accompagnement administratif, comptabilité et autres. Du coup, et donc on fonctionne sous appel à projet. Donc on répond à des appels à projet au niveau des départements, au niveau de la région, ARS, au niveau de certains ministères. Le premier ministère à venir nous aider, c'est le ministère de la Transition écologique. Sur la mobilité durable et sur l'écomobilité auprès des seniors, mais aussi auprès des salariés des structures qu'on touche. Donc voilà, on répond à différents projets comme ça. On a aujourd'hui un financement de la Française des Jeux pour apporter l'activité physique aux enfants en situation de fragilité. On va chercher des nouveaux partenaires pour créer des projets intergénérationnels entre les enfants et les seniors. Et voilà, et donc du coup on a tout ce réseau, en tout cas tout ce financement possible public, mais on a aussi des financeurs privés comme les complémentaires de retraite ou les mutuelles qui aujourd'hui viennent financer des programmes auprès de leurs adhérents pour lutter contre la dépendance, pour lutter contre le risque de chute, pour lutter contre la maladie. Mmh. Et, donc vont financer un programme auprès de leurs adhérents et après on a aussi des partenaires privés comme des laboratoires pharmaceutiques qui vont financer des programmes sur les maladies respiratoires par exemple. L'INSERM dont je disais tout à l'heure qui va financer un programme sur la prévention des chutes sur les personnes âgées. Et puis il faut savoir aussi qu'on est, pour les prestations à domicile en fait, on est aussi reconnu service à la personne. Et donc du coup les personnes peuvent bénéficier de la réduction d'impôts aussi. Voilà, donc ce qui est déjà une belle avancée. On a passé le Covid où ça a été assez compliqué, on était en arrêt sachant que la seule entrée d'argent de Ciel Bleu ce sont nos interventions. Mais on a eu le soutien en tout cas du ministère pour maintenir nos activités, nos postes, on a perdu personne à la reprise, on a même créé de nouvelles activités puisque en fait à contrario durant le Covid on a entendu parler enfin de la prescription d'activité physique. Ça fait 28 ans que Ciel Bleu se bat pour ça, pour que l'activité physique soit reconnue comme activité thérapeutique non médicamenteuse. Et ça, c'est reconnu par la HAS aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé. Malheureusement, on n'a pas le soutien aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'on était à deux doigts, il y a quelques temps de ça, il y a un an, je crois. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée, au Sénat, sur l'activité physique remboursée par la Sécu. C'est pas passé. On lâche rien, on continue et voilà, on espère qu'un jour ça arrivera pour que les personnes en fait fragiles en nécessité, besoin d'avoir une activité physique régulière pour leur bien-être physique, psychique, social, puissent bénéficier d'une aide aussi concrète. Donc voilà, donc c'est là-dessus où on se bat aussi à côté pour permettre l'accessibilité aussi financière à l'activité physique.
Vous faites effectivement la transition exacte. Dans ton discours, on entend effectivement qu'il y a davantage de prévention, une reconnaissance de cette mobilité. Du coup, comment vous imaginez vos services à l'avenir? On sait que cette population, enfin la population actuelle, et si on parle de la population française, est de plus en plus vieillissante. On a la chance de vieillir, autant bien vieillir. On comprend aujourd'hui que la mobilité est un enjeu de se bien vieillir. Comment vous voyez évoluer vos services dans les prochaines années? Donc Yannick, tu as un petit peu répondu, effectivement, avec cette reconnaissance potentiellement de la Sécu. Mais tu vois ça comment si, allez, on se projette dans 20 ans?
Comment on se projette dans 20 ans? C'est rigolo parce qu'on est en train de préparer notre rapport d'impact de 30 ans.
Parfait.
Et les 30 ans à venir. Et en fait, ce qu'on dit toujours chez Ciel Bleu, et votre nom d'émission le porte bien, c'est qu'en fait, Ciel Bleu n'est pas arrivé ici tout seul. C'est avec d'autres partenaires, d'autres acteurs, comme autour de la table ici. Voilà. Et c'est ensemble, en fait, qu'on fait avancer les choses. Et pour nous, c'est une réalité aujourd'hui qui est concrète, qui est manifeste. Voilà, c'est avec ces solutions de mobilité qu'on peut apporter aux personnes. C'est ces acteurs sociaux autour de la personne âgée dans les quartiers aussi pour lutter contre l'isolement et avec des intervenants divers et variés autour de l'activité physique, alimentation, bien-être, logement aussi, aménagement. Et voilà. Et nous, on pense qu'en fait, voilà, c'est comme ça qu'on peut continuer à croire, à apporter quelque chose à la personne en travaillant ensemble, en se connaissant les uns les autres, en parlant des uns et des autres. Voilà, et en combinant nos forces tout simplement au travers de nouvel appel à projet auprès des collectivités, auprès de la santé publique. Voilà, parce que seul, ouais, certes, on va peut-être aller plus vite, mais on ira beaucoup moins loin qu'ensemble.
Merci.
Ça marche, top. Et toi, Antoine, du coup, Antoine, si on te fête tes 40 ans d'Happy Move, tu seras où et tu feras quoi?
Moi, je pense qu'on aura, et je travaille dans ce sens-là, c'est un peu le même sujet que pour Yannick, c'est une reconnaissance des collectivités ou de la collectivité en général, puisqu'en fait, la plupart des gens qu'on interroge pensent que le service vélo-taxi de Lille, Happy Move, est un service public. Et du coup, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, chacun paye le prix réel du coût de la course, mais beaucoup de personnes sont en difficulté pour payer un tarif à partir de 7 euros sur des déplacements qui pourraient être quotidiens. Et du coup, l'idée, c'est d'aller chercher et de sensibiliser les collectivités à ce qu'il y ait des tarifs sociaux ou des tarifs subventionnés, un peu comme le transport public. Hein, lorsqu'on paye un ticket de métro 1,80€, le coût réel du ticket de métro, c'est 6-7€. Et la différence est payée, financée par la collectivité. Donc l'idée, c'est de devenir une brique des schémas de transport, de mobilité demain. Un senior ou un non-senior devrait pouvoir monter à bord d'un taxi-vélo en présentant un titre de transport validé.
Top. Effectivement, de l'intégrer effectivement dans le parc de transport public qu'on connaît plutôt, le transport en commun, métro, tram, vélo qu'on met à disposition, mais là, du coup, vélo avec chauffeur et adapté effectivement à ce public un peu plus fragile.
C'est
pour
ça.
Avoir le dernier kilomètre qui parfois pose problème.
C'est ça.
Et vous, au niveau des centres sociaux, si vous rêviez dans 20 ans la mobilité, ce serait quoi pour accompagner les seniors?
Est-ce qu'on repart en Italie de nouveau?
Ah bah, ce serait l'idéal, mais ce qui serait bien, c'est que ça soit financé, subventionné par les régions.
Qu'il y ait une continuité.
Voilà. Ouais. Parce que là, en effet, le groupe projet, le groupe de l'Italie, c'est vraiment de l'autofinancement. Donc en fait, nous, le centre social, on est vraiment un support. On n'est pas vraiment... En fait, c'est les dames qui sont à l'initiation de ce projet-là. Mais c'est vrai que dans l'idéal, oui, ce serait de pouvoir avoir suffisamment de subventions pour pouvoir permettre ce genre d'activité de façon plus régulière, plus stable et plus pérenne.
Merci. Merci. Nous arrivons au terme de notre émission Ensemble tous ensemble pour ce mois de juillet 2025. Un grand merci à vous de vous être rendu disponible et d'être venu dans les studios de Radio Campus Lille pour nous parler de ces belles initiatives qui ont pour but premier de lutter contre l'isolement des personnes âgées et de faciliter la sortie vers l'extérieur de ces personnes, voire de leur assurer une certaine liberté d'aller et venir. Nous espérons que les auditeurs ont apprécié vos témoignages et ces retours d'expérience.
Et donc avant de conclure, par nos deux habitudes, on va vous donner le mot de la fin. Pour chacune de vos structures, si jamais je suis intéressée, j'ai envie de me renseigner, est-ce que vous avez des coordonnées à nous fournir? Alors que ce soit une adresse postale, un numéro de téléphone, une adresse mail, un lien social, voilà. Et pour chacun de vous, en même temps, c'est quoi votre mot pour conclure cette émission? Yannick,
nous, on a un site internet avec la possibilité de prendre contact avec le responsable départemental de Ciel Bleu. Donc le site internet, c'est www.cielbleu.org. Voilà, donc c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui en termes de prise de contact. Et après, le mot de la fin, je dirais un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ensemble, on va plus loin.
Merci Yannick. Antoine?
Merci. Pour réserver, pour prendre des informations ou tout simplement en savoir plus sur notre système de vélo-taxi à Lille, sur n'importe quel moteur de recherche, on tape vélo-taxi Lille et on trouvera la page www.happymove.com. Ça s'écrit HAPYM2OV.com. Et on peut aussi appeler directement pour réserver au 06 24 16 08 18. Voilà pour les coordonnées et pour le mot de la fin, un grand merci. Merci pour votre accueil.
Merci. Hélène et Sadia? Alors Hélène, peut-être pour le centre social Basse-Masure, les coordonnées, comment on revient vers vous?
Donc on a un Facebook, on a aussi un Instagram, donc Centre Social Basse Masure, si vous voulez regarder un peu plus profondément ce qu'on fait, parce qu'on les met à jour très régulièrement.
Et vous partagez des photos, c'est ça?
Oui, on partage quasi tout ce qu'on fait, enfin on partage toutes nos activités, on met des photos, on explique ce qu'on fait. Et sinon, si ça vous intéresse, je vous conseille de venir directement au Centre Social Basse Masure. Donc je m'adresse principalement aux Roubaisiens et aux Roubaisiennes, parce que quand on vient de Lille, c'est peut-être pas très pertinent d'aller jusqu'à Roubaix pour un centre social. Mais de venir directement et de venir parler avec ma collègue et moi, Anaïs et Hélène, on vous expliquera avec plaisir ce qu'on fait et on vous accueillera avec grand, grand plaisir.
Ok. Et donc, est-ce qu'on a une adresse postale, Hélène, du centre social ou le quartier, peut-être l'arrêt de métro à côté
Alors, c'est le quartier du Cul-de-Four et c'est, l'adresse, c'est au 113 rue de la Basse Masure.
Donc, donc ça va, du coup, c'est le centre social Basse Masure, rue Basse Masure.
Voilà.
On ne devrait pas se tromper. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, Hélène?
Je vous remercie pour l'accueil et de mettre en lumière ces problématiques-là qui sont souvent largement tues.
Merci beaucoup. Sadia?
Merci pour l'accueil et venez beaucoup à Basse Masure. Les personnes sont très accueillantes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des jeunes, l'aide à la scolarité, il y a tout, du foot, il y a tout ce qu'il faut. Pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour les personnes âgées.
Et venez tout l'été pour financer le projet de voyage en Italie.
Mais il n'y a pas que ça, on fait des sorties à la mer, on fait des sorties à Bruxelles. C'est agréable, on rencontre beaucoup de monde en fait.
Merci. Pardon, je vous ai coupé.
Non, mais on rencontre des jeunes aussi, ça nous fait rajeunir les personnes âgées.
Merci pour ces derniers témoignages et ces dernières informations à vous quatre. Donc, on arrive vraiment au terme de notre émission avec les deux habitudes d'Ensemble tous ensemble. D'abord, une citation en lien avec notre sujet. On a choisi celle de Catherine Pancol, qui est écrivaine, et journaliste française. Elle dit « La vie n'aime pas l'immobilité ». Je vais vous laisser repartir avec ça. Peut-être que ça va nourrir votre réflexion. Et puis, on termine l'émission, comme depuis 2 ans maintenant, avec la lecture d'une lettre écrite par un anonyme pour un senior isolé via le dispositif Une lettre, un sourire, avant de nous retrouver le mardi 5 août 2025 pour une nouvelle émission d'Ensemble tous ensemble. Bonne lecture de la lettre lue. Prenez soin de vous et des autres. Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Très cher monsieur, je m'appelle Marion, j'ai 19 ans et je suis actuellement à la fac. J'ai vu grâce aux réseaux sociaux que nous pouvons envoyer des lettres aux personnes isolées, grâce à des associations. Alors me voilà, en train de vous écrire, assise dans mon lit avec un fond de musique. Que puis-je vous raconter? Actuellement, je suis en période d'examen pour la fac. Je me donne au mieux, même si la motivation s'amuse à faire des montagnes russes. Récemment, je suis allée au cinéma. J'ai été voir Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niné. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été au cinéma. Et je dois vous avouer que cela m'avait vraiment manqué. Je pense retourner au cinéma régulièrement, car c'était vraiment sympathique. Sinon, le film était incroyable. Mes parents m'ont conseillé de regarder celui avec Depardieu. Il faut que je le trouve quelque part. J'adore lire aussi. J'ai commencé un livre il y a quelques temps, Chronique d'un chevalier errant. Ce livre est écrit par le même auteur que Game of Thrones, George R.R. Martin. J'aime bien l'univers médiéval avec les chevaliers. Les combats d'ailleurs. Je suis à un passage où un chevalier a défendu une jeune femme en mettant son poing dans la figure d'un prince, si je ne me trompe pas. Bien sûr, le prince n'a pas du tout apprécié. Le chevalier doit faire face au jugement des 7. C'est un combat 7 contre 7. Chaque personne, prince et chevalier, doivent trouver un 7 chevalier. Et voilà. Je n'ai pas été plus loin. Je ne sais donc pas s'il a gagné. Mais vu que je suis qu'à un tiers du livre, je suppose que oui, car une histoire sans son personnage principal n'est pas une bonne histoire. Est-ce que vous lisiez, monsieur? Je ne sais pas ce que vous écoutez comme musique, mais voici quelques morceaux que j'ai écoutés en vous écrivant cette lettre. Le trésor de Jérôme Rebottier. C'est une musique du film que j'ai énoncé plus tôt. ADN de Tal, Les yeux d'Emily de Joe Dassin et The Battle de Harry Gregson Williams, ici du film Narnia, le premier. J'adore cette trilogie. Petit dernier truc. J'ai voulu faire de la soupe. Bon, elle n'est pas aussi bonne que celle de mes parents. Mais surtout, c'est que je l'ai fait samedi après-midi et que ce soir, elle commence à me piquer la langue. Je pense que j'ai dû rater une étape. Mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs après tout. Oh, et d'ailleurs, avez-vous un calendrier de l'Avent, monsieur? Personnellement, j'en ai. Mais j'ai dû négocier avec ma mamie. En gros, pour vous faire un résumé, ma mamie nous achète des calendriers tous les ans pour Noël. Mais l'année dernière, et encore cette année, elle estime que je n'ai plus l'âge. Je ne sais pas si vous êtes de l'avis de ma mamie ou du mien. Mais pour moi, on ne peut pas avoir un calendrier, peu importe l'âge. Bon, j'ai utilisé toute la place comme je ne sais pas quand vous allez recevoir cette lettre. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et bonne fête.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi.